Le moyen, c'est d'en vivre, en fait. Vivre de son activité, c'est moyen de continuer à la faire. Mais l'activité en soi, je pense que c'est important et je pense que c'est pour ça que quand j'avais 20 ans, ça n'a pas marché. C'est pourquoi on le fait. Et je pense que les clients en face, c'est pareil, quoi. Les clients, ils achètent pas que des photos. Ils achètent pourquoi les photos ont été prises, en fait. Déjà, quand on traite un sujet, il faut être impliqué dans le sujet. Si le sujet n'intéresse pas, on ne peut pas le traiter.
Bienvenue dans le podcast des photographes professionnels. Dans cette émission audio, je partage avec vous de grands entretiens avec des experts de la photo, de la vidéo, du journalisme ou encore de l'entrepreneuriat, dans le but de vous aider à progresser et vous épanouir dans votre activité professionnelle. Cette semaine, nous avons rendez-vous avec Christophe Bessier, photographe du collectif DR basé en Bretagne. Avec lui, nous parlerons de son parcours professionnel original et également de comment s'adapter aux besoins du marché, notamment en termes de prestations pour les entreprises, en photo, en vidéo et même en drone. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Et si ce format vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir en le partageant et en laissant un commentaire ou une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous laisse en compagnie de Christophe et vous souhaite une bonne écoute. Salut Christophe, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ?
Bonjour Fred, bah écoute, je suis Christophe, j'ai 53 ans, j'ai été marin pendant presque 25 ans et j'ai fait une école photo sur Paris en 89-90, donc ça remonte un peu. À l'époque, on travaillait encore en argentique. Et je me destinais en fait à la presse, enfin j'avais envie de faire du photojournalisme. Moi à l'époque, mon héros c'était Éric Bouvet. Je pense qu'il va être content s'il entend ça. Et voilà, ou des gens comme lui, et voilà, c'était ce que je voulais faire, mais j'ai pas réussi à percer dans ce domaine, sûrement par trop de jeunesse, manque de maturité. Et je suis parti dans les activités de plein air qui m'ont amené dans la voile professionnelle, et puis le maritime, diverses formations maritimes en 2005 et 2009-2010. 2009-2010, j'étais à l'école marine marchande de Nantes pour accéder à des brevets supérieurs pour pouvoir étendre un peu les capacités de travail et d'emploi. Et puis j'en ai eu un peu assez à partir de 2018-2019. Et je me demandais un petit peu ce que j'allais pouvoir faire de ma vie. J'avais plus envie de vivre comme ça. Et j'ai reglissé vers la photo tout doucement, sans trop savoir où j'allais. Je me suis déclaré artiste-auteur en juin 2020, alors que j'étais confiné au Gabon sur un bateau. On travaillait, mais on ne pouvait pas rentrer en France. Et puis ça s'est construit petit à petit avec les opportunités, l'effet du hasard.
Ok. Ouais, donc beaucoup d'expérience hors photo avant de te lancer au final un peu sur le tard.
Ouais, sur le tard, oui, parce que pendant des années, j'ai pas fait de photos, je m'y remettais de temps en temps. Il y a quelques années, j'ai réinstallé un labo photo là dans une chambre qui servait à rien. Et puis, donc pour de l'argentique, j'ai fait de la chambre aussi, j'ai fait du moyen format, pas mal. J'aimais bien faire ça. Et voilà, donc la photo, ça a été en dents de scie, en fait, pendant toutes ces années. Et je cherchais vraiment en fait à changer de métier et j'avais envie de travailler pour moi. Je ne savais pas encore dans quel secteur. J'ai commencé à regarder un peu tout ce qui se faisait. Je me suis dit pourquoi pas reprendre une boîte ou j'en sais rien. Mais moi j'ai été indépendant dans le maritime avec un bateau que j'ai exploité pendant 10 ans aussi. Et le statut d'indépendant, d'entrepreneur me plaisait bien. J'avais envie de retourner vers ça. Et c'est de fil en aiguille que je me suis dit, je vais faire de la photo, j'ai fait une école photo, je vais revenir à ça, et quitte à monter un business, autant le faire dans quelque chose que je maîtrise déjà un petit peu et que j'aime faire. Et puis ça s'est construit comme ça.
Ok. Et là, avec les quelques années de recul que tu as, comment ça se passe? Qu'est-ce que tu regrettes ce choix ou pas du tout?
Absolument pas. Absolument pas. Mon métier me manque pas trop. En fait, la partie de mon métier qui pourrait me manquer, c'est toute la partie manœuvre de navires à proximité des plateformes pétrolières ou des manœuvres de remorquage, des choses comme ça. Après, dans le maritime, il y a des moments qui sont très longs où il se passe pas grand-chose. Ça, c'est un peu saoulant à force, quoi. Non, je regrette absolument pas. Je m'éclate dans ce que je fais en ce moment. Et j'aime autant, en fait, l'aspect créatif de faire des images que l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut aller chercher des sous, il faut aller chercher les clients, il faut se faire connaître, il faut développer l'activité, essayer de le faire de manière cohérente pour que ça soit viable, en fait, sur le long terme. Et aujourd'hui, je me dis que. Bah, qu'il faut que ça fonctionne, qu'il faut que ça marche. J'ai pas envie de faire autre chose. Alors, peut-être que dans 5 ans, j'en aurai assez, je sais pas. Hein. Mais pour l'instant, je peux vraiment me projeter pour les 10-15 prochaines années dans ce métier-là, ce qui n'était absolument plus le cas dans le maritime, où on est quand même absent 6 mois de l'année, hein, 6 à 7 mois de l'année, et puis où on est aussi... à rendre des comptes à l'armement, indirectement aux clients de l'armement. Et puis c'est un métier aussi qui a beaucoup évolué, avec beaucoup plus de procédures. Aujourd'hui, on veut un petit peu tout rentrer dans un tableau Excel. Et il y a des choses qui, pour moi, ne peuvent pas rentrer dans un tableau Excel. Le savoir-faire maritime, le savoir-faire de la manœuvre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément expliquer. C'est ce qu'on appelle le sens marin. Et le sens marin, il se développe sur 5, 10, 15, 20 ans d'expérience. Et sur la fin, en fait, j'étais confronté à des représentants de clients, à des jeunes qui demandaient des comptes et qui me demandaient de remplir des tableaux, de faire des rapports, qui me disaient, mais est-ce que vous avez bien suivi la procédure? Est-ce que vous avez bien approché la bouée comme c'est écrit dans le manuel? Et puis un jour, je me suis un peu énervé, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai approché la bouée comme mes 20 ans d'expérience me l'ont appris, avec le feeling, avec le vent, avec le courant, avec la connaissance du navire, de l'équipage. Et je lui ai dit, mais je ne peux pas mettre ça dans un tableau Excel, quoi. Donc là, ça a été un peu la goutte d'eau. Et puis j'ai décidé de... Voilà, j'ai décidé de passer à autre chose. Non, je regrette absolument pas, même si la manœuvre me manque, je regrette absolument pas cette partie du travail. Et puis maintenant, je travaille pour moi. Donc, s'il y a quelque chose qui merde, eh ben, je peux m'en prendre qu'à moi-même. C'est pas forcément plus simple, mais au moins, c'est plus clair.
Ouais, ouais, c'est clair. Si un problème, c'est de ta faute, quoi. Et le fait, justement, de quitter un emploi qui, je pense, était... Enfin, Tu me confirmes que j'ai l'impression que c'est un peu bien rémunéré, c'est assez bien rémunéré ce genre de boulot parce que tu as quand même un niveau de responsabilité élevé. De faire le grand saut comme ça vers le milieu de l'entrepreneuriat où tu n'as pas vraiment de grosses. Tu n'as pas une visibilité très grande, ça t'a pas fait flipper?
C'est vrai que dans le maritime. Moi, sur les, on va dire, les 10 dernières années, j'ai accédé quand même à des places qui étaient plutôt bien payées et qui, en plus, qui laissent du temps libre. C'est-à-dire qu'en gros, on est payé toute l'année, mais on est sur le lieu de travail que 6 ou 7 mois par an. Bon, quand j'étais au Gabon, c'était un statut un peu différent, c'était en freelance. Donc, disons que j'étais très bien payé 6 mois par an et les 6 autres mois, j'étais pas payé. Mais en fait, l'un dans l'autre, sur l'année, c'était correct. Mais même dans cette activité, il y avait quand même de l'inconnu. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quelqu'un qui est en CDI dans une entreprise, bah en fait, si l'entreprise elle ferme, s'il y a des changements de dirigeants, de marché et tout, bah, ça peut s'arrêter. Donc en fait, même dans le maritime, ça peut s'arrêter. Et moi, j'ai toujours en fait sauté d'un job à l'autre. Et je crois que là où je suis le plus resté longtemps à la même place, c'est quand je travaillais en Afrique. J'ai dû faire 6 ans. Voilà, sinon j'ai toujours eu l'opportunité aussi de changer, mais avec quelques périodes, avec des temps morts sans trop de revenus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui me pose le plus de problèmes, c'est l'incertitude de l'indépendant. Mais au final, quand je réfléchis bien, cette incertitude, elle existe quand même quand on est salarié, quoi. Une boîte peut fermer, on peut se retrouver sans job, quoi.
Ouais, c'est juste qu'on en a un peu moins conscience, quoi, pour le coup.
Ouais, c'est qu'on en a un peu moins conscience. C'est vrai qu'en tant qu'indépendant, on a plus vite conscience de bon, ok, cette année le chiffre il progresse, il est plus correct. Mais qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Donc je pense que pour pallier à ça, bah faut essayer de travailler avec plus de clients, fidéliser les clients, et puis peut-être, je peux espérer aussi que dans 2, 3, 4 ans, bah, je me dirais ok. Voilà, j'ai un panel de clients qui me fait confiance, qui me fait travailler régulièrement. S'il y en a un qui s'arrête, c'est pas grave, il me reste les autres. Et l'un dans l'autre, on peut essayer d'avoir une espèce de moyenne comme ça sur l'activité. Bon, pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, j'ai pas encore assez de clients pour être rassuré de ce côté-là. Mais pour ma deuxième réelle année d'activité, même si je me suis déclaré en 2020, je suis plutôt satisfait.
Aujourd'hui, en tant que photographe, tu fais des images assez, assez particulières. D'ailleurs, c'est un peu aussi pour ça que je t'ai invité dans le podcast aussi, parce que, bon, pour parler de ça et d'autres choses, mais le fait que tu aies un positionnement en tant que photographe assez différent de ce qui se fait 90% du temps, tu fais de la photo de drone, tu fais de la photo, ce qu'on appelle la photo offshore, c'est-à-dire que tu vas pouvoir photographier en pleine mer, tu fais de la photo aérienne. Comment t'en es venu à faire ça et est-ce que c'est une continuité de ce que tu faisais avant quelque part?
En fait, ça c'est vraiment le côté le plus génial dans mon cursus, c'est que je continue à travailler dans un secteur que j'aime. J'ai travaillé à l'offshore pétrolier, donc en Afrique. J'ai travaillé sur la construction aussi du parc éolien de Saint-Nazaire, qui est le premier parc éolien en mer français. Et c'est là que j'ai compris, en fait, j'ai senti qu'il y avait une demande d'image dans ce secteur. Et moi, je me suis dit, mais ça, c'est super cool. C'est un secteur que j'aime, c'est un secteur que je connais, c'est un secteur que au fond j'ai pas vraiment envie de quitter parce que j'aimais mon ancien métier, même s'il a évolué, j'aime mon ancien métier. Donc ça me permet de rester en lien avec des gens qui travaillent en mer, avec des gens qui travaillent sur des navires, puisque quand je vais sur les sites offshore, en fait, bah, j'embarque sur des navires. Et ça me facilite aussi les relations avec les marins, parce que je connais leur job. Souvent, on voit un photographe, et on peut imaginer, voilà, une entreprise, elle impose un photographe à une équipe sur le terrain, que ce soit en mer ou que ce soit à terre. Bien souvent, le photographe, ça les gonfle un peu, quoi. Il dit, ouais, c'est gentil, mais il y a un mec qui vient de Paris, là, qui vient faire des photos, un journaliste, entre guillemets, ça les gonfle. Et en fait, moi, ce qui m'aide, c'est mon expérience et je pense être relativement bien accepté par ces gens-là, du fait aussi de mon cursus. Ça me permet de mieux comprendre leur fonctionnement. Enfin, je connais mieux leur fonctionnement, et du coup, je sais mieux comment faire avec eux pour pouvoir obtenir les photos que le client m'a commandées. Parce qu'à un moment, dans le maritime, il y a aussi des gens qui sont un peu rudes du métier, Et si on les prend un peu mal, ils pourraient dire, bon, ok, t'es gentil, là, mais tes photos, tu vas pas les faire. Donc moi, en fait, je suis envoyé par un client sur un site, mais les équipes qui m'emmènent sur le site ne travaillent pas forcément pour ce client, ça peut être des sous-traitants ou même des sous-traitants de sous-traitants. Donc il faut quand même rester en bon terme et travailler en bonne intelligence pour que moi, je puisse aller au bout de ma prestation et faire en sorte que mon client soit content et qu'il ait les images qu'il souhaite. Et ça, je pense que pour moi, c'est plus facile à faire parce que je connais vraiment bien le secteur, quoi.
Ouais, comme tu disais tout à l'heure sur l'image de la bouée, c'est en gros si t'as une expérience en amont et que tu as déjà une solide connaissance du milieu, c'est beaucoup plus simple de bosser sur le terrain, être en relation avec les gens, etc.
C'est ça, ouais. Sachant que les bateaux sur lesquels j'embarque pour aller faire les images, ils ne me sont pas dédiés. C'est-à-dire que c'est des bateaux qui sont affrétés, qui coûtent plutôt cher à la journée. Donc ils ne sont pas à ma disposition, en fait. Donc les bateaux, ils ont aussi leur mission quotidienne. Par exemple, sur un parc éolien, ça va être de partir du port, emmener des équipes sur les éoliennes. Les transférer d'une éolienne à l'autre. Alors, les équipes peuvent avoir besoin d'aller changer un fusible sur une éolienne. Donc, on les dépose, ça prend un quart d'heure, ils reviennent. Ou une grosse intervention qui va prendre plusieurs heures. Et à bord des bateaux, il y a plusieurs équipes. Donc, en fait, le navire, il fait le taxi entre tous ces gens-là. La priorité étant soit la construction, soit l'exploitation du parc éolien. Et moi, je passe derrière. Donc, moi, en fait, il faut que j'arrive à m'imbriquer là-dedans pour justement discuter avec les équipages, pour trouver un moment pour pouvoir faire le vol de drone au bon endroit ou des images à l'autre bout du parc, quoi.
Ok. Ces photos d'éoliennes, t'en a parlé dans une vidéo qu'on a publiée sur la chaîne YouTube de DR, du collectif DR, où tu en parles assez longuement et je renvoie les gens vers notre chaîne YouTube parce que on apprend pas mal de choses aussi sur toi et sur les autres photographes qui ont participé à notre dernier livre collectif qui portait sur l'écologie et dans lequel on retrouve ton reportage justement. En deux mots, tu peux nous parler de ce reportage et de pourquoi tu as choisi ce sujet-là pour le proposer dans ce livre?
Le thème du livre était sur le, enfin, est sur le, l'écologie, l'environnement, toute l'évolution que chacun d'entre nous vit en ce moment. Et il me semblait intéressant de montrer des images de la construction d'un parc éolien. Parce que bon, les éoliennes à terre, on commence à les connaître depuis pas mal de temps. Les éoliennes en mer, c'est très nouveau, c'est les premières, donc c'est Saint-Nazaire, c'était 2019 ou 2020, enfin début de la construction, ou 2021 peut-être. Et donc il me semblait intéressant de montrer ça, d'autant plus que c'est un peu loin des côtes et que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'immensité en fait du truc. Une éolienne en mer, elle est beaucoup plus grande qu'une éolienne à terre, et donc proportionnellement, elle produit aussi beaucoup plus d'énergie avec des vents plus réguliers, etc.
Ok, super. Parlons un peu pour rebondir sur le livre DR et sur ce reportage-là. Donc le livre est sorti là pour les fêtes de Noël. Et toi, tu as choisi de. Alors, tu as. T'as fait ce que je vous apprends à faire dans le collectif, c'est-à-dire à utiliser les expériences qu'on fait en collectif pour les faire pour vous les accaparer, pour ensuite monter des projets personnels et tu l'as fait avec brio parce que tu arrives au bout du projet, c'est-à-dire que tu as auto-édité, enfin tu es en train de bosser dessus, mais tu es en train d'auto-éditer un livre photo. Donc tu as suivi les étapes qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire faire une campagne de financement participatif sur Ulule, contacter un imprimeur, là tu bosses sur le bouquin. Comment ça t'est venu l'idée et est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet?
Là, je pense que tu fais référence au challenge 90 jours là qu'on a eu dans le collectif.
Oui, c'est vrai on l'a aussi structuré sous forme de challenge, c'est vrai, mais alors là, c'est vrai que je pensais même pas forcément à ça, je pensais directement juste à la campagne de financement du livre, mais oui, c'est vrai que c'est dans le challenge qu'on a parlé de ça aussi au début. Ouais.
Alors moi j'ai suivi ce groupe de travail en fait autour de ce challenge. Au départ, j'avais absolument pas l'idée d'auto-éditer un livre. Et c'est tout à la fin en fait des 90 jours que bon, en parallèle, moi je faisais ce reportage là sur la restauration du phare de Thévenec. Et à un moment, je me suis dit, mais j'ai peut-être suffisamment de contenu pour que ça mérite d'être dans un livre. Alors après, voilà, moi, je suis photographe professionnel depuis pas très longtemps. Est-ce que je suis légitime pour faire un livre, pour le vendre? Ça rejoint aussi le syndrome de l'imposteur que j'ai pu avoir au début et que je commence à guérir. Y a un moment, voilà, faut franchir le pas. Il me semblait avoir suffisamment de contenu. Pendant le chantier, la presse locale et même nationale s'est intéressée à ce chantier, justement parce qu'on en a parlé, parce qu'il y avait des images. Moi, en fait, j'ai suivi ce chantier, j'avais pas de commande, donc c'est vraiment là du photojournaliste, c'est pas du corporate, quoi. Et on a commencé à partager des images avec les différents intervenants. Ils en ont parlé dans la presse, on a commencé à en parler de plus en plus, les télés se sont intéressés. Et ça, je pense que ça a déclenché aussi le livre. C'est-à-dire, les gens ont montré un intérêt pour ça. Je me suis dit, j'ai du contenu, j'ai suivi le chantier du début à la fin, qui est une super belle opportunité. Bah, peut-être que ça vaut le coup d'essayer de faire un livre. Moi, je me dis, ben, j'essaye, je commence à travailler un peu hein, une mise en page, un graphisme. Moi, j'ai ma fille qui m'aide un peu là-dessus parce qu'elle, c'est vraiment son métier. Et puis à un moment, bah, voilà, comme DR fait pour son livre, bah, on lance une campagne Ulule et puis on verra bien si ça intéresse trois personnes ou si ça intéresse 100 personnes. En parallèle, j'ai aussi proposé le livre aux entreprises qui sont intervenues sur la restauration du phare, qui elles ont vu l'opportunité d'avoir un moyen de communication d'autant plus fort. Que c'est pas une communication qui font eux-mêmes. Et je pense que ça a beaucoup plus de poids pour eux de soutenir un auteur qui fait un livre plutôt que de dire bah nous on va faire un livre. Et si eux ils font un livre, voilà, c'est de la pub quoi. Enfin, c'est vraiment de la communication directe, c'est regarder ce qu'on a fait. Non, là c'est différent, c'est un photographe qui a suivi un projet, qui décide de faire un livre. Bon, bah ok, on va l'accompagner en lui achetant quelques dizaines de livres. Et ça a commencé à me titiller, à me dire, mince, ça intéresse du monde. La campagne Ulule, bon, au début, c'est un peu la famille, les amis. Et puis on relance. Alors, par contre, c'est un travail de fou parce qu'il faut marteler tous les jours. Je pense que j'ai fait des posts tous les jours. Je pense que j'ai passé. Peut-être 1 à 2 heures par jour pour faire des posts, pour contacter des gens, même relancer des gens par email, par Messenger, etc. Faut les vendre quasiment un par un, les livres, quoi. Et au final, aujourd'hui, j'ai quasiment le budget pour l'imprimer. Je vais remettre un peu au bout. Et les autres, je les vendrai plus tard. Ou de toute façon, pour moi, ça me fait de la communication et je pense que ça me donne aussi un petit peu de crédibilité. J'aurais fait un livre. Alors après, c'est pas le livre du siècle, hein, c'est pas. Bon, je vais pas citer d'autres auteurs qui font des super livres, mais il y a des livres sûrement bien plus super que ça. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est assez spécifique. Et puis j'ai cherché un peu à droite à gauche ce qui existait dans le domaine et j'ai pas trouvé grand-chose. Alors sur les phares, oui, il y en a plein. Sur la tempête. La tempête sur les phares, la mer, les vagues qui explosent sur les rochers, il y en a plein. Sur les hélicos, il n'y a pas grand-chose. Et sur vraiment un truc spécifique comme ça, d'un hélico au service du patrimoine, parce que le thème du livre, en fait, c'est ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Ouais. Non, mais c'est une super histoire et effectivement, si, ça va être un super livre. T'as intérêt parce que je fais partie des souscripteurs, donc j'ai intérêt à avoir un super livre dans ma bibliothèque.
Merci de ta collaboration. J'espère que ça va te plaire, sinon tu vas me défoncer.
Arrête, c'est pas mon genre. Non, mais franchement, je suis super content pour toi parce qu'en plus, je pense que tu t'en as conscience aussi, c'est une super aventure en termes. C'est ultra enrichissant intellectuellement. Autant un livre, C'est pas ce qui enrichit tout de suite en termes d'argent. Et c'est aussi également très chronophage. Donc ça fait perdre, entre guillemets, pas mal de temps. En tout cas, ça demande un investissement en temps assez important. Par contre, l'enrichissement personnel, professionnel et intellectuel derrière, il est sans commune mesure. C'est comme si tu achetais un truc que tu pourrais pas acheter ailleurs, en fait. Et en fait, tu vois, c'est marrant, avant qu'on enregistre cet épisode, j'enregistrais ce matin avec Florent qui va passer dans le podcast, peut-être qu'il est déjà sorti l'épisode au moment où on sortira celui-là, qui parle aussi de son aventure en auto-édition, avec un peu la même problématique, enfin, le même cas de figure où en gros il a suivi des militaires et donc du coup l'institution y a trouvé un intérêt d'avoir un support de communication comme ça qui vient de l'extérieur. Bon, lui, ça a été un peu moins évident que pour toi. Donc, ça sera intéressant d'ailleurs que tu écoutes l'épisode. T'apprendras deux, trois trucs, je pense. Et on se disait, tu vois, ce qui est génial aussi, c'est que tu fais forcément des erreurs quand tu fais un projet comme ça, mais tu apprends encore plus vite. Parce que quand tu commets une erreur à ce niveau-là, qui te coûte des milliers d'euros, ou en tout cas, l'investissement de départ est de milliers, voire de dizaines de milliers d'euros, tu apprends beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement. Tu refais pas les mêmes erreurs. Et du coup, le jour où tu en sors un nouveau ou que tu bosses sur un autre projet un peu ambitieux, parce qu'il y a aussi une question d'ambition là-dedans, tout le monde n'a pas l'ambition de sortir un livre, de transformer un reportage en livre. Après, toi, d'où tu penses que ça devient aussi? Est-ce que ça devient de ton passé de capitaine de navire, la capacité comme ça à entreprendre des choses ambitieuses et à aller de l'avant?
Je pense que ça ne me vient pas forcément de mon expérience de capitaine. Je pense que ça me vient de mon éducation. Je pense que ça vient de mon père. Et moi, ça on en a pas parlé encore, mais dans le maritime, en fait, moi j'ai. En quelle année? En 95. Non, en 95, j'ai eu l'opportunité de commander un voilier traditionnel. Ensuite, j'ai rencontré donc la mère de ma fille, qui elle travaillait dans le développement touristique. Donc, il y avait vraiment la notion activité loisir pour le grand public. Et à un moment, on s'est dit, ben, tiens, on va racheter un bateau, on va monter une société. Donc, en fait, en 97, donc à 27 ans, j'ai monté ma boîte avec ma compagne à l'époque. On a acheté un bateau, on a pris un gros crédit à la banque et on s'est lancé et on a fait tourner ce bateau ou tournoyer ou tournicoter. Enfin, ça n'a pas marché tant que ça, mais on l'a exploité pendant 10 ans. Et moi, j'ai adoré cette période. Alors financièrement, elle n'était pas très bonne. Parce qu'un bateau, ça coûte très cher et puis que la saison est relativement courte pour l'exploiter. Mais j'ai adoré cette indépendance, en fait, bon, bah, il y a un moment, j'ai pris une décision et il faut que je trouve des solutions. Et le livre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le livre, ça me. C'était dans mon esprit, un livre est dans ma tête depuis 6, 7, 8 ans. Pas un livre photo, j'ai essayé d'écrire, mais je suis nul en écriture. Donc j'ai essayé d'écrire, j'ai travaillé ça, j'ai jamais réussi à écrire. Mais j'avais envie de faire un livre depuis très très longtemps. Donc là, en fait, ça, j'ai du contenu, j'ai envie de faire un livre. Bah, maintenant, je fais des photos, donc je fais des meilleures photos que ce que je sais faire en écriture. Donc je fais un livre. Et à un moment, je prends la décision, je le fais, quoi. Et une fois que la décision, elle est prise, ben en fait, c'est comme quand on a monté une boîte, on monte sa boîte, après, ben, il faut que ça marche, quoi. Alors ça peut ne pas marcher, mais la décision est prise, maintenant, on peut plus hésiter, c'est-à-dire on y va, quoi. Donc, l'entreprise avec le voilier traditionnel, à l'époque, c'était ça, c'est on y va. Bon, on ne dit pas que des fois, on ne se réveille pas à 2 h du matin pour vomir parce qu'on est angoissé, hein. Mais on y va, on avance, quoi. L'activité photo, c'est pareil. Le livre, c'est pareil. Et je pense que dans la vie, la difficulté, c'est de prendre une décision. Et la décision, on la prend de toute façon tout seul. On peut demander des avis à 1000 personnes, ce n'est pas les gens qui vont décider pour nous. Donc à un moment, bah, on décide, on avance, et puis on voit, et puis ça marche ou ça ne marche pas. Alors après, peut-être le lien qu'il peut y avoir avec le rôle d'un capitaine de navire, c'est, voilà, on a des colis à livrer sur une plateforme pétrolière en Afrique, la plateforme elle a 50 ans, la grue elle a 20 ans. Ça marche pas tout très très bien, il y a du vent, il y a de la houle. Ben on te dit, ben, tu vas livrer des colis sur cette plateforme à la con, à cet endroit-là. Attention, les règles de sécurité sont quand même respectées, mais ça reste pas évident. Ben, il y a un moment, avec le bateau, tu dis, ben, j'y vais, je vais les livrer, les colis, quoi. Alors, si les conditions sont pas bonnes, ben, tu n'y vas pas. Si les conditions commencent à être bonnes, un petit peu comme une société, on le sent bien. Bah, on y va, et puis une fois qu'on est au pied de la plateforme, bah, on fait les colis. Et puis une fois qu'on a fait les colis, bah, on a atteint le premier objectif, en fait. Et là, une entreprise, le livre, je trouve, c'est un peu pareil. Au départ, j'avais trois commandes sur Ulule, et puis on se bat, on se bat, on se bat, et aujourd'hui, je vais à peu près rentrer dans mes frais. Alors attention, j'ai jamais fait ce livre pour gagner de l'argent. J'étais sûr de ne pas gagner d'argent avec ce livre. Par contre, ce que je voulais, c'est que ça me donne de la visibilité. Et ça, je pense que je vais en entendre parler pendant pas mal de temps, quoi.
Ouais, et puis surtout, on fait pas un livre pour gagner de l'argent directement avec ce livre, on va dire, en tout cas sur la vente des exemplaires. Encore que c'est carrément possible, hein. C'est juste qu'en étant en faisant ça seul de son côté, c'est compliqué. Mais par contre, gagner de l'argent de façon indirecte avec, c'est largement faisable. C'est même, je vais pas dire facile parce que ça reste compliqué, mais c'est largement envisageable parce que tu vas pouvoir vendre des expos, tu vas pouvoir vendre des tirages, tu vas pouvoir vendre de la prestation peut-être plus facilement parce que tu seras plus identifiable, tu auras plus de crédibilité, tu vas pouvoir potentiellement le transformer en publication dans la presse si tu l'envoies à quelques rédactions, ou en tout cas si tu le montres, ça sera toujours plus fort que de montrer un synopsis. Donc derrière, on fait ce genre de choses, mine de rien, pour gagner un peu d'argent, quoi. Enfin, en tout cas, ça contribue à une stratégie globale sur l'année pour rentrer du chiffre d'affaires, quoi.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Quand je dis pas gagner d'argent, c'est pas gagner d'argent direct. Si je gagnais, si je perdais de l'argent et qu'en plus ça m'apportait rien en termes de crédibilité, bah, peut-être je l'aurais même pas fait. Juste pour le fun, je l'aurais peut-être même pas fait. Ou alors j'en aurais fait un. Enfin, je veux dire, j'aurais trouvé un site en ligne, j'en aurais fait un pour moi, pour mettre dans mon étagère. Mais non, moi j'espère que ça va m'amener de la crédibilité. Et ça m'a déjà amené des contacts en fait dans l'aéronautique, enfin dans la partie hélico. Et j'espère pouvoir développer cette partie-là. Alors la partie hélico, elle peut être liée à l'offshore, mais pas forcément. Moi, je me verrais bien intervenir à l'offshore et puis intervenir sur des trucs hélico. Ça m'éclaterait bien, ça serait assez fun de cumuler tout ça, quoi.
Excellent, excellent. Et puis tu auras ton livre à la BNF, ce qui est pas rien.
Ouais, en plus, ouais. Ouais, j'ai fait l'ISBN, j'ai demandé ce matin.
Ok, excellent.
Ouais.
Excellent. Ouais, y a toute une partie administrative, juridique, on va dire, juridico-légale à faire quand on fait un bouquin. Et pour ça, on a parlé dans le précédent épisode, justement, y a un excellent bouquin de Joël qui en parle, qui s'intitule Checklist.
Auto-édition, non, un truc comme ça?
Ouais, je crois que c'est J'édite mon livre tout seul, voilà ça. J'édite mon livre
Ouais,
tout
c'est
seul.
ça.
Dans lequel elle passe en revue, en checklist, tout ce qui va bien, tout ce qu'il faut. Et non, c'est bien. Revenons un petit peu sur. Tu fais partie du collectif DR depuis pas si longtemps que ça, au final. Tu es rentré quand déjà?
Mois de mars, il me semble, hein.
Ouais,
Mars
de
2023, ouais.
2023. Pourquoi tu as choisi cette structure, cette agence?
En fait, quand je me suis remis à la photo, enfin c'était plutôt argentique, quand je me mettais dans mon labo pour bricoler, je mettais ton podcast en fait en bruit de fond. Et, enfin en bruit de fond, non, plus qu'en bruit de fond, je l'écoutais bien sûr. Et je trouvais qu'il y avait plein de choses intéressantes. Et ce qui m'a plu dans les podcasts, c'est que tu disais, bah, foncer, c'est possible, quoi. Et ça, ça m'a ouvert les yeux, parce qu'en fait, quand j'étais en école photo en 89-90, photojournaliste, argentique, des mecs de Gamma, etc., qui s'en allaient à l'autre bout du monde faire des trucs géniaux, enfin des trucs géniaux, ils couvraient des trucs pas géniaux, mais eux, ils avaient une vie qui était quand même plutôt enrichissante. Et à l'époque, on disait, oui, photojournalisme, c'est compliqué et tout, et je pense que j'ai peut-être trop écouté ça. Après est venu le numérique. Et là, le numérique est venu, on a dit bah, la photo c'est mort, la photo ça sert plus à rien, on fait la photo, le métier de photographe est mort. Et moi j'étais resté un peu là-dessus. Et puis franchement, en écoutant tes podcasts, je me dis mais merde, il est plus jeune que moi, il interviewe des gens qui sont plus jeunes que moi, donc ont commencé après moi, et qui y arrivent, et il y en a qui y arrivent plutôt bien, enfin j'ai l'impression. Et là j'ai commencé à me dire, tiens, c'est peut-être possible. J'avais intégré aussi le club des stratèges à un moment. Je pense que c'était à peu près à ce moment-là. Et puis je pense que j'étais pas prêt, donc j'ai quitté. Et puis j'ai toujours suivi un peu le collectif DR. Et dans l'idée, un petit peu ce que je racontais avant, c'est dans l'idée, je décide d'être photographe, d'en vivre, de développer mon activité, bah, faut que je mette toutes les chances de mon côté. Donc pourquoi pas essayer le collectif DR. Le jeu en vaut carrément la chandelle. Au moins j'aurais essayé, quoi. Pour l'instant, je suis plutôt content. Alors c'est vrai que je fais pas vraiment de photojournalisme ou de reportage, mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Et de toute façon, ce qui est intéressant dans tous les cas, c'est de pas être tout seul, parce qu'un indépendant, il est tout seul, pas uniquement dans la photo. Moi, je connais d'autres indépendants dans d'autres domaines. Quand on discute, qu'on creuse un petit peu, ils souffrent tous un petit peu de solitude. Donc là, au sein du collectif, bah, on discute, on échange. Il y en a qui donnent des conseils, des avis, des idées, hein, une espèce de brainstorming général aussi, parfois. Et ça permet d'avancer. Mais c'est dans l'optique de mettre toutes les chances de son côté. Quand j'ai commencé à travailler sur les parcs éoliens, donc comme capitaine, hein, j'ai commencé comme capitaine, j'ai ressorti mon appareil photo, j'ai commencé à mettre les photos sur LinkedIn, sur ma page de capitaine, il y a des gens qui se sont intéressés, et je dis tiens, bah, peut-être que ça intéresse du monde ce que je fais là, quoi. Et j'ai vu qu'il y avait des salons autour des énergies renouvelables et de toute cette dynamique qu'on appelle bleue. Bleu, c'est l'économie de la mer, quoi. Et je me suis renseigné pour aller sur un salon professionnel. Ah, le salon professionnel, ok. Oh, t'as le ticket d'entrée, 150 euros, quoi. Ah, c'est pas une place de cinéma, quoi. Ça commence à piquer un peu. Et j'en discute avec ma compagne. Et, ah, vas-y, 150 euros, vas-y, quoi. Et j'y suis allé, j'ai rencontré plein de gens. Et c'était génial. Mais toujours dans l'optique, bah, j'ai une idée, je la tente. Au moins, j'aurais fait ce qu'il faut. Et si ça marche pas, bah tant pis, j'irai ramasser des tomates, mais je pense qu'on verra. On en reparle plus tard.
Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, après, t'as commencé à faire du photo-reportage, parce qu'au final, le sujet que tu as mis dans ton livre, c'est du photo-reportage. Donc au final, t'as largement commencé à exploiter les ressources qu'on met à dispo, justement, sur le storytelling, sur la mise en, sur l'editing, sur la construction d'un sujet. Et donc c'est cool.
Ouais, mais en parallèle, en fait, moi je suis très attiré par le documentaire, en fait. De plus en plus, je commence vraiment à creuser ça. Ça ne veut pas dire que je laisse tomber la photo, loin de là. Mais en ce moment, voilà, c'est au fond de moi, je suis très attiré, en fait, par raconter des histoires, en fait, à ma manière, sur des sujets. Donc, ça reste du photojournalisme, hein, quelque part. Mais c'est vrai que je développe aussi cette partie vidéo. Parce que, en fait, quand je suis allé sur ce premier salon professionnel, j'ai rencontré des gens. Les gens, ils m'ont dit, Ouais, ok, vous faites de la photo, c'est sympa. Est-ce que vous faites du drone? Première demande, non, je ne fais pas de drone. Je vais sur un autre stand, est-ce que vous faites du drone? Troisième stand, est-ce que vous faites du drone? Je suis rentré à la maison, je vois ma compagne, j'ai dit, putain, ils me font chier tout ça avec le drone, quoi. Et elle me dit, mais fais du drone. Ils veulent du drone, fais du drone. Allez, ok, je fais du drone. Centre de formation, etc. Taper un peu dans les réserves et formation drone. Donc du coup, quand je vais sur site, je fais de la photo et du drone. Avec le drone, j'ai commencé à faire des rushs, vidéo, c'est le même outil, hein, c'est assez facile. Et du coup, on a commencé à me demander plus de rushs. Donc du coup, j'ai commencé aussi à faire des rushs avec mon réflexe. Et puis là, dernièrement, j'ai investi dans un hybride qui est plus adapté et plus performant aussi pour faire de la vidéo. Et du coup, même si au départ je me disais non, moi je suis photographe, je vais vivre que de la photo, un petit peu obtus avec des œillères, ben, en fait il faut aussi s'adapter à la demande. C'est vrai que c'est compliqué d'aller sur les sites offshore. On n'envoie pas une équipe, quoi. Donc si on envoie un gars et que le gars il peut ramener et de la photo, et du drone, et de la vidéo, que potentiellement après il peut le monter. Pour l'instant, je n'ai pas encore ce type de demande, mais je suis en train de travailler là-dessus. Du coup, finalement, je peux tout faire. Et le pire, c'est que j'y prends du plaisir. C'est-à-dire qu'au départ, je voulais faire que de la photo, et je prends du plaisir, en fait, à cette polyvalence. Je suis toujours en train de me former, lire des bouquins, regarder des tutos, acheter des formations en ligne. D'ailleurs, j'ai pas encore regardé la tienne sur l'IA. Elle est en stock, mais je l'ai acheté, mais je l'ai toujours pas, j'ai toujours pas parcouru. Enfin voilà, des formations aussi autour des réseaux sociaux, du marketing. J'écoute beaucoup de podcasts et pas que des tiens. Et ça, c'est super enrichissant. Mais je crois que je m'écarte de la question de départ, en fait.
Non, mais c'est parfait parce que du coup, tu arrives sur une autre question que je voulais te poser, sur cette question de transverse et de capacité que tu as à faire beaucoup de choses différentes et t'adapter surtout parce que je vais pas dire que t'es un vieux monsieur hein. Mais t'es la génération avant moi et c'est vrai que c'est une génération qui a un peu du mal hein, globalement à s'adapter aussi aux nouvelles technologies enfin en tout cas à certaines évolutions tu vois le simple fait de passer de la photo à la vidéo. De la vidéo drone, pourquoi pas demain à l'IA, d'être capable de faire une campagne de financement participatif, de spammer intelligemment les gens pour cette même campagne sur les réseaux sociaux. Bah, tu vois, c'est pas si simple que ça. Quand on vient d'un univers où on a connu l'argentique, tu vois, c'est pas si évident que ça. Et bravo, du coup.
Merci beaucoup. C'est super enrichissant. Moi, j'aime apprendre. On ne peut pas dire, voilà, tiens, j'ai fait telles études, je m'arrête. On apprend toute sa vie. Et ça, je pense que je le tiens aussi de l'éducation. Mon père, il a été un des premiers à acheter un Apple II, quoi. Enfin, l'Apple II, je pense que t'étais pas né, Fred. si, je pense que t'étais né, mais c'est peut-être années 80. Non, peut-être pas, années 80.
Ah non. T'es né quand, toi? Je suis né en 90. Mais il faut pas le dire dans ce podcast.
Et il a été un des premiers à acheter un Apple II. À l'époque, il s'occupait du. En bénévolat, il s'occupait du comité Croix-Rouge du Mans. Et il a acheté un Apple II. Des disquettes, des imprimantes, ils ont commencé à faire la compta eux-mêmes en fait au sein du comité Croix-Rouge avec un Apple II. Mon père, il était né en 1916, hein, donc ça fait plus de 100 ans. Il s'est mis à l'Apple II, il a fait du Super 8. Après le Super 8, il s'est mis à la vidéo. Voilà, il a essayé tous ces trucs-là. Et ma mère, je vais pas dire une connerie, mais je pense qu'elle a passé son bac en candidat libre à 30 ans. Parce qu'elle est issue de famille immigrée polonaise, enfance heureuse, mais pas riche. Voilà, quand ils avaient une orange à Noël, c'était cool. On est loin hein, de ce qu'on peut vivre actuellement dans la société, enfin, en tout cas en France. Et je pense que je tiens ça de mes parents, c'est-à-dire qu'à un moment, on apprend, la société évolue, il faut s'adapter. Tu parlais de l'IA, c'est toi qui m'as convaincu à l'IA. Au début, je disais non, pas l'IA, non, moi je fais des photos, je peins avec la lumière, enfin, photographie, on peint avec la lumière, ouais, ben, on va peut-être pas. Essayer de devenir trop vieux et trop con trop vite, et puis ben, on va s'intéresser à l'IA. Et je trouve que c'est rigolo, et je commence à m'en servir. J'ai pas encore regardé la formation, mais moi je commence à m'en servir pour, je devrais pas le dire, mais pour certains posts LinkedIn, quand je suis pas inspiré qu'il faut que je fasse un post, je demande à mon pote IA de m'aider un petit peu. Alors je fais pas un copier-coller, hein, mais par contre ça débloque des idées, quoi.
Bien sûr. De toute façon, l'IA, globalement, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. C'est pas arrivé en 2022 avec ChatGPT, c'est beaucoup plus vieux que ça. Et fondamentalement, l'IA, il y a un énorme décalage entre ce qu'on s'en fait comme image et ce que c'est réellement. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'IA, c'est un peu une sorte de monstre du futur, tu vois, un peu comme un Terminator, ou en tout cas un programme qui est un peu autonome, qui est capable de remplacer des compétences et tout. Alors qu'en réalité, l'IA, ce n'est que, entre guillemets, hein, gros guillemets que, une sorte d'algorithme, de programme qui permet en fait d'avoir accès à une sorte de... comme un peu le fonctionnement qu'on aurait d'un cerveau, qui classe les choses, qui va chercher les informations très rapidement, qui connecte les points avec un système de probabilité, et en fait qui permet de nous faciliter la vie, un peu comme l'arrivée de la calculatrice, tu vois, ou comme l'arrivée de l'ordinateur. Où on s'est dit, mais en fait, c'est un peu con de se rappeler par cœur d'essayer de calculer de tête 362 multiplié par 42 divisé par 6, alors qu'on peut le taper sur une machine, tu vois, c'est exactement la même logique. Et c'est pas pour autant que les gens ont arrêté de savoir compter, ou en tout cas, ça les a pas empêchés, ça les empêche pas de vivre. Et au contraire, ça fait grandir la société, parce que, et toi, tu le vois avec les manips que tu fais, enfin, ce que tu fais en photo, les grands chantiers, enfin, pour être capable de bâtir autant de choses comme des éoliennes offshore, etc. L'humain a intérêt de pouvoir compter sur des programmes, sur des choses qui permettent de les assister, de les aider. Pas des assister dans le mauvais sens du terme, mais de les aider. Donc derrière, autant savoir se servir de ces outils-là pendant que c'est possible. Et c'est marrant parce que tu vois, tout ce que tu dis vient confirmer un peu le... Tu sais, c'est ce qu'on appelle la courbe de l'innovation. L'adoption des innovations, où en gros, tu sais, ça fait une courbe où au début, il y a très peu de gens qui se mettent à une innovation quand ça apparaît, bah, type l'Apple 2, le premier iPhone, etc., les drones, etc. Et puis après, ça va grandir de plus en plus et beaucoup de gens, sinon la quasi-totalité des gens vont l'utiliser. Et puis après, il va y avoir les dernières personnes qui étaient récalcitrantes au début, qui ne voulaient pas de téléphone portable, qui ne voulaient pas machin, et qui finissent par l'adopter. Et ensuite, ça s'arrête pour laisser place à une autre innovation. Et globalement, tu l'as dit, si tu es au début de la vague, quand tout le monde est au sommet, le mec qui est arrivé au tout début, c'est un peu comme un investissement en bourse ou en crypto ou ailleurs, hein. Il n'y a pas de secret, c'est que tu es au début, mathématiquement parlant, tu finis au sommet si le truc va jusqu'au sommet, quoi. Donc c'est chouette.
On peut imaginer. Ouais, je la connais cette courbe. Elle est intéressante. Alors moi, j'ai pas la prétention d'être au début, hein, mais j'essaye de pas être complètement derrière non plus, quoi. Mais je comprends aussi que les gens ils aient peur de ça, comme quand on a commencé à remplacer les gens par des robots pour assembler des bagnoles. Il y a des gens qui se sont retrouvés sans emploi. L'IA va probablement avoir le même impact sur certains métiers. Moi je crois, je suis peut-être naïf, hein, mais je crois en l'humain. En tout cas, dans mon travail, je pense qu'avec certains clients, je pense qu'ils travaillent avec moi parce que c'est moi. Enfin, je veux dire, ils peuvent trouver d'autres gens pour faire la même chose. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux sur l'offshore, mais il y en a d'autres. Hein. Moi, j'ose croire en fait qu'il y a des gens qui privilégient en fait les relations humaines. Et moi, le premier, c'est vrai que quand j'achète quelque chose, quand je consomme quelque chose, je regarde le prix. Mais si je suis convaincu d'un truc parce que il y a des gens derrière et tout, finalement, le prix, enfin, dans une certaine mesure, il a pas trop de, il a moins d'importance ou il a pas trop d'importance. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté algorithme et tout qui fait un peu peur. Mais je pense qu'on ne pourra pas effacer les relations humaines. La preuve, pour nous ici, le collectif DR, si on se fait des visios toutes les semaines, si on échange par des groupes, etc., c'est parce qu'il y a l'humain. On ne peut pas remplacer ça par une machine. Enfin, je ne crois pas, quoi.
Bien sûr, et puis de toute façon, toutes les technologies enfin, il n'y a aucune technologie qui a complètement effacé l'humain du process. Tu parlais des machines qui fabriquent des bagnoles. Regarde le concept des caisses enregistreuses automatisées. Il y a quand même dans les supermarchés encore des hôtesses d'accueil, des caissières ou des caissiers parce qu'il y a besoin aussi de. Ça devient un argument de vente de pouvoir parler à un humain. Maintenant, c'est clair que sur certains types de métiers, tu vois, un télépéage. Si une machine est plus efficace qu'un humain sur une tâche donnée, là on peut se demander effectivement quelle est la plus-value de l'humain, enfin, où est la plus-value de l'humain. Mais tu vois, moi je trouve quelque part c'est positif dans le sens où justement ça réinterroge vraiment sur la question de quel rôle pour l'humain, quelle place de l'humain, tu vois, dans un process au final. Parce que je sais pas, tu prends même l'innovation, tu prends l'innovation de la photographie. Qui a complètement foutu le bordel dans l'univers de la peinture à l'époque. Si tu voulais te faire tirer ton portrait, ben c'était un peintre. C'était pas une photo. Et quand la photo est arrivée, ça a pas complètement détruit le métier de peintre. Ça l'a détruit comme on l'imagine, parce que ben t'as plus de peintres de portraits, de rues, etc. Mais t'as encore des gens qui peignent. Et c'est même devenu encore plus cher, quelque part, de se faire faire une peinture. Tout comme ça a rendu accessible à tout le monde le fait de se faire prendre en photo, tu vois, ça crée une échelle de valeur différente, mais l'humain reste, mais l'humain progresse quelque part, parce que quand tu regardes si tu prends un ouvrier qui passait 50 ans de sa vie à serrer des boulons dans une usine, certes, du jour au lendemain, la personne doit être reclassée, doit réapprendre un métier, doit monter en compétences pour trouver une place où l'humain est encore important dans ce métier-là. Et certes, c'est dur, c'est compliqué, etc. Mais mine de rien, globalement, l'échelle d'une société, ça fait progresser tout le monde. Parce que du coup, tu n'as plus de tâches, tu n'as plus de, tu t'as de moins en moins de postes avec des faibles valeurs ajoutées. Tu vois? Et en plus, notre esprit, notre cerveau humain est fait de telle sorte à ce qu'on peut évoluer. Tu vois, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs, on n'est plus des personnes qui serrent des boulons sur une chaîne de montage. On est capable de faire plus. Après, c'est clair que. Après, c'est beaucoup aussi instrumentalisé ou en tout cas rendu. Enfin, on communique dessus d'une certaine façon. Si tu racontes l'histoire en disant, ben. Le père de famille perd tout du jour au lendemain, et du coup, le méchant capital, etc., méchant capitaliste fait que cette personne se retrouve à la rue, etc. Oui, tu racontes l'histoire d'une façon biaisée où c'est pas beau. Tu regardes ça à l'échelle de l'humanité, tu racontes cette même histoire et tu expliques que ça permet d'apporter une meilleure technologie et faire agrandir les capacités d'une société entière. C'est différent, tu vois.
Carrément. Et puis un chasseur-cueilleur que tu citais tout à l'heure, à 30 ans, il était mort, hein. Ouais. Donc c'est vrai que ça améliore aussi toutes ces choses-là améliorent aussi les conditions de travail. Et on vit de plus en plus vieux et on vieillit de mieux en mieux. Enfin, au moins nous ici en France, quoi. Enfin, les pays entre guillemets développés, j'aime pas trop ce mot-là, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'on ça fait peur. Alors après, il y a des gens qui ont tendance à dire ouais, c'était mieux avant. Moi, je pense que chaque génération a vécu ses trucs et c'était pas forcément mieux avant, c'était pas forcément plus simple avant. Tout est à créer. Après, on a accès à énormément d'informations et peut-être même trop d'informations. Et ça, peut-être que ça crée aussi chez les gens des angoisses. C'est-à-dire qu'à un moment, faut couper BFM. Je pense que tu vas être d'accord avec moi.
Ouais, mais je pense justement que l'IA est une bonne solution pour ça, tu vois, tout comme les algorithmes ont été une solution à ce début de trop plein d'informations. Tu vois, tu prends les réseaux sociaux il y a 10 ans, il y avait tellement peu de contenu au final qui était produit que tu avais une lecture chronologique des choses. Tu voyais les dernières publications les unes après les autres. Quand on a passé ce point de bascule où il y avait beaucoup plus de contenu produit que consommé, on a été obligé d'inventer un système qui permet de hiérarchiser, d'aller récupérer une information, la porter devant une personne qui, par ses comportements, etc., qui était déjà une sorte d'IA, hein, quelque part, l'algorithme, te propose qu'il y a. Et là, on arrive sur un nouveau point de bascule où tu as la possibilité de poser des questions à un agent conversationnel comme ChatGPT, ou d'aller récupérer des données à droite à gauche grâce à l'IA pour t'apporter une information plus construite et peut-être plus efficace. Et effectivement, peut-être un peu moins anxiogène que ce que tu vois sur BFM, CNews, etc. Mais vu que de toute façon les journalistes utilisent de plus en plus l'IA, hein, entre ceux qui le disent, ceux qui ne le disent pas, on va vers ce truc-là. Mais ouais, c'est intéressant tout ça.
Et les réseaux sociaux, comme tu dis, qu'ont vraiment évolué. Moi, pour revenir à mon activité, c'est LinkedIn. Moi, là, les 2 premières années, c'est essentiellement LinkedIn. Alors, j'ai aussi un site web, mais les gens, ils viennent pas par le site web, hein. Aujourd'hui, ils viennent pour moi, ils viennent par ce réseau. Après, d'autres photographes dans d'autres domaines vont trouver leurs clients, je sais pas, moi je connais aussi des photographes de mariage qui sont plus sur Instagram et qui trouvent leur clientèle là-dedans, pour de la photo grossesse, de la naissance, du couple, du mariage, etc. Ça va plus être a priori Instagram. Moi dans mon domaine, c'est clairement LinkedIn. Et si LinkedIn n'existait pas, comment je ferais moi pour faire connaître mon activité localement, nationalement, voire même internationalement? C'est juste impossible. Là, j'ai eu un article dans le magazine Airbus. Comment j'ai trouvé les contacts? LinkedIn, Airbus hélicoptère chargé de com, etc. Puis après, de fil en aiguille, un rédacteur, etc. Une interview, et puis on fait enfin, il fait un article. Ça, il y a 15-20 ans, enfin en tout cas moi, quand j'ai fait une école photo, mon école photo sur Paris en 89-90, il n'y avait pas ça, quoi. Le réseau, il fallait le faire, fallait prendre le métro, aller dans les agences, montrer des planches de diapo, montrer des sujets, fallait y aller, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut envoyer 15 synopsis dans la journée, avant, il fallait 15 jours, quoi. Je peux imaginer que c'est quelque chose de cet ordre-là. Donc ça permet en fait de pouvoir... Il y a des points vachement positifs à ça, quoi.
Ah, c'est clair, c'est clair. Bah, LinkedIn, c'est j'en parlais dans l'atelier là que j'ai fait sur les réseaux sociaux et il y a lundi là et c'est le réseau le plus sous-coté de tous les réseaux sociaux parce qu'en fait c'est en train de revenir à la mode de fou parce que bah, les gens se rendent compte de la puissance du truc et je pense qu'il y a cette question de l'humain, c'est-à-dire que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etc. sont tellement dominés par les algorithmes parce qu'il y a cette surenchère de contenu et les gens sont vraiment en mode zombie dessus en tant que consommateurs du truc. À la différence de LinkedIn qui a été très délaissé parce que c'était un réseau un peu de boomer, un peu trop corporate, tu vois, où il fallait vraiment apporter de la valeur, où on est encore parfois sur l'algorithme est encore un peu différent. Il y a encore cette question de chronologie qui prévaut un peu, parce qu'il n'y a pas tant de contenu que ça, mais c'est en train de changer tellement les gens reviennent dessus en force. Et donc du coup, c'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme un Eldorado, quoi. Au tout début, tu as une opportunité, tu as une fenêtre d'opportunité où il y a un truc qui n'est pas encore trop utilisé par la masse, c'est encore early adopter. Et là, c'est LinkedIn. Ça va changer très vite, parce qu'à force de dire que c'est sous-coté, les gens vont dessus. Et à force d'avoir des témoignages comme ceux que tu viens de dire... De gens, moi c'est pareil, je fais beaucoup de business grâce à LinkedIn, c'est un truc de dingue, à la fois sur Défense Zone et à la fois sur les formations, ça marche très bien. Il y a des chances que si vous écoutez ce podcast, je vous ai spammé sur LinkedIn, parce que j'ai spammé peut-être tous les photographes de LinkedIn sur ce podcast, et j'ai eu des très bons retours. Mais il y a ce côté humain qui prime, tu vois, de se dire, quand tu es démarché sur LinkedIn, que tu es bien démarché par un humain, c'est encore mieux perçu que quand tu es démarché sur Facebook ou sur Instagram, tu vois.
Mais ça n'empêche pas quand même de ne pas mettre de côté l'humain. Moi, ma première commande, j'ai spammé, comme tu dis, des gens sur LinkedIn. J'allais commenter leurs posts, etc. Et moi, sur LinkedIn, c'est Christophe Photographe Offshore. C'est pas Christophe Bessier, c'est Christophe Photographe Offshore. Moi, je voulais qu'on voit photographe et offshore, quoi. Et puis Christophe, parce que quand je travaille avec mes clients, la plupart, on se tutoie et on s'appelle par les prénoms, enfin, rapidement, quoi. Et un salon business sur lequel je suis allé, il y avait un stand avec les gens que je spammais, enfin où je commentais leur poste. Et puis c'était fin de journée, etc. Ils étaient un peu au champagne, un peu ambiance salon business, quoi. Et j'ai pas voulu déranger, j'ai juste posé ma carte de visite, en fait. Ce qui n'empêche pas qu'il faut quand même avoir des petites cartes de visite en papier. J'ai posé ma carte de visite pour pas déranger. Voilà, je tourne les talons, je commence à m'en aller doucement. Et puis en fait, la personne qui était là, ben, avec une flûte de champagne dans une main, elle a regardé la carte de visite. Et moi, je tournais le dos déjà, j'étais en train de partir. Et elle fait « Hey, Christophe, photographe offshore, viens ici !» Et on a discuté. Et c'est les gens qui m'ont passé ma première commande pour m'envoyer sur site. Moi, j'avais vendu des images que j'avais fait. Donc j'avais cédé des droits, en fait, sur des images, mais j'avais pas encore eu de commande. Et le premier client qui m'a passé commande, c'est comme ça. C'est-à-dire que c'est LinkedIn, mais peut-être que si je l'avais jamais croisé sur un salon, peut-être que si j'avais pas payé 150 balles pour aller sur ce salon, peut-être que si j'avais pas osé laisser ma carte de visite, peut-être que si j'avais tout simplement pas eu de carte de visite, eh ben on n'aurait jamais travaillé ensemble. Donc faut pas négliger non plus la méthode traditionnelle, je pense.
Mais carrément, carrément. D'autant plus que la méthode traditionnelle, elle a fait ses preuves et c'est pas pour rien. Et en fait, tout ce qu'on voit aujourd'hui renvoie vers ça. C'est-à-dire que, mais tu sais, quelque part, même l'IA, si tu le verras, je te spoil un peu la formation que du coup que t'as acheté. Alors, en gros, tu verras que tout dépend, en fait, de si tu veux avoir du succès avec l'IA, enfin, si tu veux vraiment t'en servir correctement, tout dépend comment tu lui parles. Et en fait, c'est con, mais même si c'est un programme informatique, même si c'est une personne qui n'existe pas, l'IA, il faut lui parler comme à un humain. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des... Comme c'est créé par des humains, il y a tout un pan de la psychologie humaine qui fait partie du logiciel. Et c'est pas pour rien qu'on parle d'intelligence quand on parle d'IA, parce qu'il y a cette capacité... Alors, certes, ça va pas avoir de la compassion comme un humain, etc. Il n'y a pas d'âme derrière. Mais il y a tout un process de comment fonctionne l'humain et comment on répond à certaines questions par rapport à comment la question est posée, tu vois. Et c'est pour ça que le truc le plus important quand entrepreneur, c'est d'être capable, c'est la relation humaine, c'est d'être capable de comprendre ce que c'est un biais cognitif, ce que c'est un biais de confirmation, comment tu construis des relations avec les gens sur le long terme. Et ça veut dire essayer de comprendre l'autre, tu vois, se mettre à sa place. Et donc tout ça, ça vient de la méthode traditionnelle quelque part, tu vois, c'est un peu comme le fait que les BNI, les groupements d'entrepreneurs, sont autant la mode aujourd'hui, alors qu'on pourrait se dire, c'est bon, il y a LinkedIn, qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à prendre un petit déjeuner à 7h du mat avec une quarantaine d'entrepreneurs qu'on connaît pas, à l'autre bout de sa ville, un matin, et on va payer plus de 1000 ou 1500 balles l'année pour avoir accès à ce groupe. Pourquoi faire ça? Ça a l'air con, mais en fait non. Et quand tu dis, tu vois, j'ai payé 150 balles pour accéder à ce salon, moi, ça a été aussi un choix quand on a monté DR, on s'est dit, on savait qu'on allait être plus cher que les autres structures sur le marché en termes de cotisation annuelle, mais on savait aussi qu'en augmentant les tarifs, on allait pouvoir proposer plus de qualité, mais qu'on allait surtout avoir des gens d'une qualité différente. Parce que globalement, quand tu sors un produit, un service, quel qu'il soit, ou tu fais de la prestation, et que tu mets un prix très faible, voire un prix à zéro, la perception derrière sera très faible ou de zéro, tu vois. Et tu auras peu de gens qui vont accéder à ton service s'il est cher ou s'il est pas si simple, s'il y a des contraintes derrière. Tu vois, le BNI, c'est un bon exemple. Non seulement ça a un coût élevé à l'année, mais en plus, si tu te pointes pas plus de deux fois d'affilée à une réunion, tu es viré du groupe. Donc ça implique, au-delà de l'argent, que tu aies de l'argent ou pas, ça implique d'être présent et d'être vraiment présent avec les gens. Et si en plus, tu es là en dilettante et que tu parles pas vraiment aux gens, tu vas pas tirer profit du truc, tu vois. Donc tout est fait pour t'apporter une contrainte, tout comme la contrainte est importante en créativité. Enfin, tu le sais, tous les photographes qui le savent, quoi. S'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de créativité. Ben, c'est pareil dans les relations sociales, c'est pareil dans le business. Et tout ça, c'est l'ancienne méthode. Le coup des cartes de visite, le coup d'appeler les gens, un peu comme le fait d'être poli, quoi. Tout simplement, ou de s'intéresser aux gens, leur faire un cadeau pour Noël, tu vois, une carte de vœux. Ça a l'air ultra old school de faire ça, mais en fait, le cerveau humain, il n'a pas évolué plus vite que la technologie aujourd'hui. Il est encore, on a encore ce cerveau reptilien, tu vois, cette capacité de se dire, on va ressentir des émotions. Tu vois, tu prends les émotions comme la peur, etc. Alors, c'est pas la même peur que notre ancêtre face à un tigre qui va peut-être le buter dans la journée, mais ça reste une peur similaire. Tu vois, la peur d'être rejeté, la peur de l'échec, la peur d'être jugé. Tout ça, c'est des peurs qui remontent à des millions d'années, en fait.
Clairement, ouais. Ouais, et puis certaines qu'on arrive à un petit peu surpasser. C'est-à-dire qu'à un moment, on a peur, c'est normal, il faut l'accepter. Et puis au-delà. Et en allant au-delà, en fait, ça permet de voir que finalement, le tigre, il n'est pas derrière le buisson, quoi. Il va pas nous bouffer. Donc au final, on risque quoi? Moi, je commence à sentir ça maintenant, ça fait pas longtemps. Enfin, dans cette activité, c'est. Il y a un moment, j'y vais, j'ose. Je suis pas. Voilà, on n'est pas plus con qu'un autre. À un moment, pourquoi pas? Là, j'ai envoyé un mail à la secrétaire d'État à la biodiversité. Il y a 6 mois de ça, j'aurais jamais fait. Bon, elle m'a pas répondu, mais ou pas encore. Ou c'est peut-être que j'ai envoyé pas suffisamment intéressant, mais faut oser. Faut oser. Après, je pense qu'important aussi, c'est dans tout ce qu'on fait, dans tout ce que les gens font, la grande le but, c'est le but, c'est enfin non, c'est pas le but, c'est le moyen, c'est d'en vivre, en fait. Vivre de son activité, c'est moyen de continuer à la faire. Mais l'activité en soi, je pense que c'est important, et je pense que c'est pour ça que quand j'avais 20 ans, ça n'a pas marché. C'est pourquoi on le fait. Et je pense que les clients en face, c'est pareil, quoi. Les clients, ils n'achètent pas que des photos. Ils achètent pourquoi les photos ont été prises, en fait. Déjà, quand on traite un sujet, il faut être impliqué dans le sujet. Si le sujet n'intéresse pas, on ne peut pas le traiter. Et peut-être que dans les images qu'on crée, je ne sais pas si je m'écarte un peu, hein, du sujet, mais peut-être que dans les images qu'on crée, ce qui est important, c'est pourquoi on les crée. Donc c'est peut-être un luxe aussi dans la vie, de pouvoir faire quelque chose qui répond à son pourquoi, et du coup qui vient combler un besoin qui n'est pas uniquement de payer un loyer et de manger, quoi.
Bah,
Je sais pas si...
toi, tu as lu le bouquin Start With Why, non, de Simon Sinek. Ouais, voilà.
Oups,
La
grillé.
base.
Oui, je l'ai lu, ouais.
Non, mais la base. Mais tu sais que ce bouquin, enfin, moi, j'ai pas lu le bouquin, je pense, comme tout le monde, j'ai plutôt regardé les vidéos du mec, des TEDx et tout. Mais c'est incroyablement puissant, cette question du pourquoi. Et en fait, ça dépasse même le concept de pourquoi tu. C'est ça qui est bien, en fait. Il y a une double lecture. Enfin, il y a une double lecture. Tu peux faire plusieurs lectures de ce raisonnement, du why, tu vois, du pourquoi. T'as la question de toi personnellement, il y a la question de ton entreprise, dans son environnement macroéconomique, tu vois. Lui, il prend tout le temps l'histoire de Apple, qui dit en gros, bah, Apple, voilà, ils ont vraiment compris le pourquoi, ils vendent le pourquoi de ce qu'ils font, quoi. Et quand tu regardes même au niveau politique, c'est très utilisé, les partis politiques qui arrivent au pouvoir, c'est souvent ça. C'est le côté pourquoi c'est important de voter pour nous, parce que ce qu'on représente, c'est quelque chose que vous voulez vous aussi, tu vois. Et effectivement, ça s'applique à tout. Et c'est
Mais comme il explique aussi très très bien dans son livre, c'est qu'il y a un moment, c'est un peu souvent les hommes et les femmes politiques, ils disent pourquoi, mais en fait ils le vivent pas leur pourquoi. Bien souvent ils le vivent pas, donc il y a un moment on n'y croit plus parce que c'est pas convaincant. On parle de Apple, l'iPhone, etc. Le mec, il était vraiment convaincu de son truc et c'est pour ça que ça a marché. Et c'est pour ça que des gens achètent des Mac, etc., qui sont plus chers que la moyenne quand même, parce que il a su. Voilà, il fait quelque chose qui est plus cher, mais les gens l'achètent. Parce que il se retrouve en fait dans le produit. Mais ce bouquin, il est super intéressant. Et il explique comment mieux vendre en fait avec le pourquoi. Mais il explique aussi, et c'est peut-être même plus important que le reste, c'est que il faut être cohérent avec son pourquoi. C'est-à-dire que son pourquoi, on peut pas le transférer à quelqu'un. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que toi tu fais, Fred. Si tu dis bah moi j'arrête, je vends mon activité, je vends ma boîte, et je vais faire et le repreneur il va faire la même chose, il va pas y arriver. Peut-être qu'il va reprendre les mêmes bases, le même fonctionnement, etc. Mais très probablement il va pas y arriver parce que il le fera pas au fond de lui pour la même raison que toi tu le fais. Et je pense que ça c'est valable dans toutes les activités. Et un gars qui monte une épicerie, qu'elle soit bio ou Pablo, on s'en tape. Mais le mec qui monte une épicerie, s'il monte une épicerie juste pour remplir sa marmite, je pense pas que ça marche. Mais s'il monte son épicerie parce qu'il y croit, parce qu'il aime vendre ses bons produits, parce qu'il aime sa clientèle, il va avoir 80%, ça va être des produits lambda, la plaquette de beurre qui manque, etc. Mais il va avoir une petite touche qui lui correspond et dans la enfin dans cette touche, en fait, la clientèle va s'y retrouver. Les gens, ils vont venir dans l'épicerie locale, quoi. Moi, je crois beaucoup en ça, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je crois en l'humain. J'ai une amie qui travaille dans l'immobilier, elle travaille pas dans l'immobilier comme tous les agents immobiliers. Ça fait 19 ans qu'elle travaille dans l'immobilier. Elle fait pas un pognon monstre dans l'immobilier, elle gagne sa vie, mais elle sait pourquoi elle le fait et comment elle le fait, quoi. Et elle a sa clientèle et son réseau par rapport à ça. Mais je pense qu'il faut pas se concentrer sur le quoi. On voit beaucoup de gens qui essayent de monter des startups, des trucs, des machins dans tous les sens pour soi-disant créer de la valeur. Ouais, la plupart des trucs, c'est quand même pour essayer de prendre de la valeur au passage plus que d'en créer, quoi. Et leur pourquoi. Leur quoi, c'est faire du fric. Leur comment, c'est en prenant de la valeur quelque part. Et leur pourquoi, c'est pour s'enrichir. Moi, j'adhère pas trop à ça, quoi.
Ouais, en fait, le pourquoi est fort du moment où il est cohérent par rapport à tes actions, mais aussi qu'il reçoit une acceptation, ou en tout cas que ça fasse écho dans la tête du mec en face, tu vois.
Ouais, je pense que ça doit correspondre au pourquoi des gens qui y en face. Ouais.
Et tu vois, il y a pas longtemps, j'ai regardé une série. Tu connais l'histoire de Theranos?
Theranos?
Ouais, Theranos. Ça te parle pas?
C'est quoi, c'est un magasin, ça?
Theranos,
Non.
c'était une start-up qui a été montée par une nana qui s'appelle Elizabeth Holmes, une blonde, une jeune femme blonde de la Silicon Valley, qui en fait a dupé tout le monde parce qu'en fait, elle est donc. Il y a un documentaire qui vient de sortir, il y a un documentaire, mais il y a aussi une série qui vient de sortir sur Netflix, qui s'appelle The Drop Out. Et elle est magistrale, cette série, parce qu'elle te montre le côté radical du pourquoi et à quel point ça peut être dangereux. Dans le sens où tu peux manipuler plus facilement grâce à ça. Et en gros, le pitch, c'est l'histoire de Theranos, donc la boîte qu'elle a créée, qui a défrayé la chronique il y a quelques années. Et c'est assez récent au final parce que je crois d'ailleurs tous les verdicts n'ont pas encore été jugés contre elle. C'est Nana qui est devenue milliardaire avant 30 ans grâce à un pourquoi. En gros, son pourquoi, c'était de dire je monte une société pour faire en sorte que les gens ne soient plus diagnostiqués d'un cancer trop tard. pour qu'on puisse vivre dans un monde où la santé a passé à un autre niveau. Et son produit qu'elle voulait vendre, c'était une boîte, un peu comme un ordinateur personnel, où en gros, tu te piques le doigt pour choper une goutte de sang et instantanément, tu peux avoir accès à tout ton bilan et savoir si du coup, tu as une maladie quelconque, une carence en quelque chose, et pour pouvoir du coup avoir une meilleure santé. Et sauf qu'en réalité, malgré le fait qu'elle ait levé des milliards et des milliards en arrivant à convaincre les gens, convaincre des investisseurs qu'elle avait une vision comme ça, un pourquoi très fort sur pourquoi il fallait monter ce projet-là pour sauver des gens, son modèle c'était Steve Jobs, hein, donc elle se baladait avec des tocs-cols roulés et elle recrachait les mêmes trucs que dans les keynotes d'Apple, sauf qu'en fait son programme ne marchait pas, la boîte ne marchait pas. Et en fait, elle pipait même elle truquait les résultats, elle faisait des analyses sanguines bidons. Ça allait très loin en fait. Elle mettait en danger des gens. Il y a des gens qui étaient diagnostiqués du cancer alors qu'ils l'avaient pas. Enfin, ça allait extrêmement loin.
Et là, c'est de l'arnaque. Là,
c'est une énorme arnaque. Quoi. C'est ça. Ouais. Et en fait, elle a pu monter ce truc parce que et c'est vachement intéressant comme analyse derrière, c'est que elle utilisait les mêmes codes. C'était un copier-coller de tout ce que faisaient les mecs dans la Silicon Valley quand ils arrivaient à lever des milliards. Et au final, c'est ça un peu la défense qu'elle a utilisée, c'est que, je sais pas si tu te souviens, toi tu connais un peu l'histoire d'Apple, au lancement du Mac, et même au lancement de l'iPhone, le produit n'était pas complètement terminé, et le prototype ne fonctionnait pas correctement. C'est-à-dire que par exemple, je crois que sur l'iPhone 3, je sais plus le truc exact, mais qu'en gros quand tu changeais d'application, ça buguait et ça se rafraîchissait pas, tu vois. Et malgré le fait qu'il y avait ce bug, ils ont décidé de lancer le truc, tu vois. Et du coup, elle s'est dit pareil, elle s'est dit ok, ben on est un peu des pirates, on a le droit de balancer un prototype qui marche pas complètement. Sauf que là, tu touches à la santé des gens, tu vois.
Ouais. Là, ça craint quand même.
Ouais, ça craint. Et je te conseille cette série parce qu'elle est magistrale. On passe un super moment. Et tu vois, ça montre clairement le côté, le why. Si t'as un bon why, que t'es en plus, t'es doué en termes de... Bon, après, elle jouait sur toutes les cases, le fait que ça soit une femme, jeune, tu vois, qui avait abandonné Stanford, mais qui avait la possibilité d'y aller. Elle jouait sur le côté féminisme, le côté égalité des chances, etc., qui au final a fait plus de mal qu'autre chose, parce que c'est devenu l'arnaque la plus connue au monde à ce moment-là, donc du coup, ça a décrivisé toutes les femmes qui voulaient lancer une boîte derrière, tu vois.
Mais je pense qu'il faut vraiment que le pourquoi qu'on explique, il corresponde à son pourquoi au fond de soi, quoi, et qu'il y ait de l'honnêteté, en fait, par rapport à ça. Ça me fait penser à... Un truc, il y a quelques années, bah, quand je travaillais à l'offshore, etc., bon, c'est vrai que je gagnais bien ma vie et tout, j'essayais de regarder un peu des placements, des choses comme ça, quoi. Et je me suis dit, bah, je vais essayer de faire des placements pas trop bêtes, et j'ai commencé à regarder les sites internet, des sites internet qui regroupent, en fait, des placements, des investissements dans des entreprises qui vont chercher à développer des trucs autour de l'environnement, autour de l'innovation, des choses comme ça et tout, quoi. Et puis, bon, à un moment, je me suis un peu intéressé à la finance, la bourse, etc., donc j'ai quelques connaissances là-dessus. J'ai commencé à regarder et tout, puis à un moment, je me dis, mais ces plateformes, elles sont... quand on creuse, en fait, les plateformes, dans tous les cas, elles sont gagnantes. Elles font l'intermédiaire. Elles prennent tant de pourcents à l'entrée, tant de pourcents à la sortie. Si le projet il fonctionne, bah, le client, globalement, il est gagnant. Mais le projet, il n'est pas garanti en capital, quoi. Et à un moment, j'en ai regardé un, j'en ai regardé deux, j'en ai regardé trois. J'ai dit, bah non, je vais pas faire ça. Ça me correspond pas parce que la plateforme, dans tous les cas, elle est gagnante, quoi. Donc en fait, ils font quoi ? Ben, en fait, ils font un business sur de l'écologie, de la biodiversité, etc. Là, j'ai fait un petit documentaire récemment autour de la plantation d'arbres dans le cadre d'un projet RSE d'une entreprise. Cette entreprise, elle s'est galérée pour trouver comment et où planter des arbres. Ah, ils ont trouvé des associations pour aller planter des arbres au Brésil ou en Inde. C'est-à-dire, tu donnes 1000 euros, on te plante 100 arbres ou 1000 arbres, j'en sais rien. Enfin, ouais, mais tu sais pas, en fait, quoi. Est-ce que l'organisme, il est honnête? Quel est le pourcentage de ce que tu verses va réellement se retrouver en arbre? Est-ce que, on a vu hein, des fois, même dans l'humanitaire, des organisations qui prennent 90%, 80% de ce que tu donnes en frais de fonctionnement? Je pense que les gens, ils n'ont pas envie de ça. Qu'il y a un frais de fonctionnement, évidemment, il y a une structure, etc. Mais, et du coup, bah, cette entreprise, qui est une entreprise à côté de chez moi, bah, ils ont fini par trouver l'information. Et en fait, ils ont été plantés des arbres à 45 minutes de route de l'entreprise. Voilà, ils ont payé les plantations. En plus de ça, ils ont pris sur leur week-end pour aller planter les arbres. Donc il y a un investissement de l'entreprise, il y a un investissement des salariés en termes de temps. Et ils ont planté des arbres qui vont pouvoir pousser. Ils vont les voir pousser, ces arbres, s'ils veulent. S'ils veulent, donc 4 ans, ils retournent à l'endroit et ils y vont, donc ils savent ce qui est fait. Et voilà, cette entreprise avait cette démarche-là, mais elle voulait que le pourquoi corresponde à son pourquoi. Et du coup, elle a décidé de le faire vraiment, vraiment localement. Et c'est là où on revient à l'humain, en fait. C'est important de. Peut-être que ça aurait coûté moins cher d'aller planter des arbres en Inde, j'en sais rien, mais eux, ils voulaient le faire ici parce que au moins ils y croient, quoi. Il n'y a pas de perte de confiance par rapport à ça, quoi.
Ouais, c'est clair. Et puis la confiance, c'est le truc le plus important, de toute façon, dans une relation et enfin, aujourd'hui, quoi, plus largement.
On peut. Quand on perd la confiance de quelqu'un, c'est difficile de la récupérer. Hein.
Ouais. C'est clair. Ouais, c'est même ce qui fonctionne. Enfin, l'économie fonctionne comme ça. On a confiance en une monnaie. Quand on n'a plus confiance en une monnaie, il se passe ce qui se passe dans des pays où il y a une faillite. Donc c'est clair, c'est important. Écoute, on a fait un bon tour,
On
c'est
a fait
cool.
un large tour. Hein.
On est
On parle plus
on
beaucoup
a un peu.
de photos là.
Ben, ouais, mais en fait, mais tu vois, je trouve que c'est bien parce qu'au final, c'est un peu le but de ce podcast, hein, c'est de parler de tout sauf de la photo quelque part parfois parce que le métier de photographe c'est pas que la photo je pense que tout le monde le sait ça aujourd'hui quand t'es photographe tu fais des photos que 5 à 10% du temps le reste du temps t'es sur un ordi t'es sur tu fais des devis tu fais des mails
Ah, c'est peut-être bien de finir là-dessus. Moi, j'ai des jeunes qui me contactent de temps en temps via LinkedIn parfois en disant voilà, j'aurais être photographe professionnel et tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est vous aimez la photo? En général, oui. S'ils veulent être professionnels, c'est qu'ils aiment la photo. Moi, je leur pose la question, est-ce que vous aimez l'entrepreneuriat? Est-ce que vous aimez développer un business? Est-ce que vous aimez développer une activité? Vous devez vous poser cette question-là. Parce qu'en fait, la part de la photo, elle est petite par rapport à tout le reste. Donc ça veut dire que, allez, si par chance, on fait allez, 20-30% de son temps des images, je pense que c'est même peut-être large, ça veut dire que 70 à 80% du temps, on fait le reste. Et si on n'aime pas le reste, bah, autant rester amateur. Et attention, je ne dénigre pas le terme amateur. Pour moi, la différence entre un amateur et un professionnel, ce n'est pas la qualité de ces images. Il y a des amateurs qui font des trucs magnifiques. La différence, c'est qu'il y en a un qui doit en vivre et qui doit assumer le fait que 70 à 80% de son temps, ça va être des contacts avec des gens. Du démarchage, des demandes à la con aussi, des demandes incohérentes, ou du temps sur des dossiers pour se rendre compte au final que les gens ils ont 20 euros à mettre. Voilà, donc c'est pas jouable. Et de la compta, et de l'administratif. Effectivement, on peut déléguer, hein, à partir d'un certain moment, on peut déléguer une partie de ces trucs un peu chiants. Mais pour les déléguer, il faut déjà développer et avoir les sous pour le faire. Donc le.
Oui, et puis même quand tu as les sous, il faut jamais déléguer quelque chose que tu n'es pas capable de faire toi-même. Ça, c'est une règle de base. Et du coup, ça demande du temps, de l'investissement et, comme tu l'as dit, de l'envie, qui est le truc le plus important. Et effectivement, un photographe amateur n'aura pas forcément envie, quand il creuse un peu le truc, de gagner de l'argent avec des photos. Et je pense que les gens qui diront, qui veulent pas gagner d'argent avec leurs photos, c'est parce qu'ils ont touché du doigt justement ce côté contraignant du métier, et où on leur a dit, et puis ils l'ont bien entendu. Maintenant, le côté contraignant, t'es bien placé pour le savoir aussi. La contrainte, encore une fois, de la contrainte naît la créativité. Et toute tâche même qui semble rédhibitoire, enfin qui semble pénible ou énervante, t'apportera des connaissances importantes. Moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est la compta, mais pourtant la compta, j'apprends toujours des nouveaux trucs intéressants. Et je recommencerai les choses à chaque fois comme je les ai faites, parce que c'est important en fait d'apprendre ces choses.
Et du coup de comprendre ce qu'on fait par rapport à la compta, ce qui est intéressant, c'est bon, où j'en suis, quoi. Si on doit appeler son contact pour savoir où on en est, le comptable, il a d'autres clients, il est peut-être en vacances, il n'a pas le temps, etc. Moi, ce que j'aime dans la compta, attention, je ne suis pas un grand amoureux de la compta, mais ce que j'aime dans la compta, c'est que je regarde où j'en suis. Ne pas confondre recettes et bénéfices. En plus, quand on travaille avec la TVA, chiffre d'affaires TDC, chiffre d'affaires hors taxes, c'est pas du tout pareil. Donc si on commence à se dire, voilà, ce qu'il y a sur le compte en banque, c'est à moi, ben non, ce qu'il y a sur le compte en banque, il y en a une partie quand même qui fait que passer. Et c'est pour ça qu'il faut gérer, quoi.
C'est clair. Bah, rien que connaître ça, ça permet de ne pas tomber dans le piège aussi des gens sur Internet qui vont vous alpaguer avec des sommes incroyables du genre je suis devenu millionnaire, mais en fait millionnaire en chiffre d'affaires, c'est pas pareil qu'en bénéfices, qui est pas pareil qu'en revenus personnels, et qui est pas pareil non plus en niveau de richesse. Parce qu'après tu payes des impôts sur le revenu. Enfin bref, c'est un peu sans fin le délire.
Et puis il faut se méfier aussi un peu sur les réseaux sociaux, LinkedIn y compris. C'est que il y a des gens qui ont bien compris que les clients, ils n'ont pas envie de travailler avec une boîte qui ne marche pas. Donc il y a des gens qui vont un peu au pipeau sur leur chiffre d'affaires fabuleux, tout seul, des conseillers, des coachs, des experts en ci, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de pipeaux. Moi, c'est pas la manière dont je procède. Mais à trop regarder les réseaux sociaux aussi, on peut se dire, on peut créer une peur en fait, en disant, si on regarde sur les réseaux sociaux, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde a une activité géniale, hein, que ce soit sur Insta ou sur LinkedIn, tout le monde cartonne. Je pense que c'est pas si vrai que ça, je pense que tout le monde a ses difficultés et qu'il faut aller un peu au-delà de ça. Tout le monde galère un peu à un moment donné, la vie n'est pas si rose. Et même dans d'autres secteurs, hein, on a vu des pauvres gosses qui se sont foutus en l'air parce que ils se rendaient compte qu'ils avaient une vie de merde alors que sur les réseaux sociaux, tout le monde avait une vie géniale. Non, les réseaux sociaux, c'est un cahier de mensonges. Enfin, pas tout n'est pas mensonge, mais faut faire attention. Quelqu'un va jamais mettre sur un réseau social qui va pas bien.
Bah, tu sais quoi, il y a une trend en ce moment sur YouTube qui est beaucoup aux États-Unis mais qui arrive en France justement sur cette question-là, parce que cette trend, c'est en gros les. Attends, je te retrouverai la vidéo, c'était vachement intéressant l'analyse. C'est des micro-influenceurs de la tristesse, quoi. Dans le sens où c'est des gens qui font des vidéos pour pleurer ou pour dire qu'ils vont pas, qu'ils sont en dépression, etc. Et c'est des vidéos qui font énormément de vues.
Ah bon?
Ouais, et c'est des très jeunes, hein, c'est des adolescents, etc. Parce qu'en fait, il y a ce côté, effectivement, on n'a pas l'habitude de le voir, et il y a des études qui montrent que ce qui fonctionne bien dans les miniatures de vidéos, dans les titres, etc., tout ce qui est un peu putaclic, c'est justement quand tu es dans la tristesse, dans le drama, dans la négativité. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité, qui est toujours plus fort, pour attirer l'attention. C'est pour ça que quand tu regardes les miniatures de YouTubeurs qui ont des millions d'abonnés, quand ils vont mettre leur tête sur la miniature, ils vont faire toujours des expressions bizarres, soit ils vont pleurer, soit ils vont faire la gueule, soit ils seront très tristes, soit ils seront très joyeux. Mais c'est toujours très lié aux émotions. Et l'émotion négative sera toujours plus forte que l'émotion positive. Parce que tu as aussi l'aversion à la perte, qui est toujours plus forte que l'appât du gain. Tu vois, le fait de. Si je te dis tu risques de perdre telle chose, tu vas plus facilement cliquer que si je te dis tu vas gagner quelque chose. Tu vois. Et aujourd'hui, il y a cette trend qui arrive, parce que justement, certaines personnes intelligentes ont compris ça, que. On est attiré par ça et on commence à être habitué et un peu résilient au bullshit Instagram où tout le monde montre sa meilleure vie. et montrent que tout leur réussit. Mais tu as raison, il y a un élément ultra important pour un jeune qui se lance dans la photo, c'est de ne pas tomber dans le piège de penser que, de commencer à se comparer aux autres et à dire, à vouloir chercher à montrer quelque chose de mieux, de jouer la surenchère, de montrer qu'ils ont la meilleure vie, de montrer que ça marche vraiment pour eux, etc. Parce que le pire qui peut leur arriver, c'est de commencer à croire à ce rêve. Et ce rêve dans le sens mauvais rêve, quoi. Pas rêve qui drive tes ambitions, mais rêve qui te fait croire que tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Et qui est terrible. Qui est terrible. Moi, je connais des gens, il y a des gens d'ailleurs qui sont passés par DR, qui sont plus dans DR, qui ont été un peu victimes de ça. Et que personne n'a réussi à coacher, à aider sur ça, sur le concept de finir par croire que s'ils n'arrivent pas à avoir la vie de l'influenceur sur Instagram qui s'idolâtrait, ils n'avaient pas réussi leur vie de photographe, tu vois. Et c'est ce qui fait que des gens abandonnent, hein, ou des gens, pire encore, se foutent en l'air, comme tu l'as dit. C'est terrible. C'est terrible.
Ça, c'est le danger, ouais. Ça, c'est le danger. Faut pas tout prendre comme argent comptant.
Ouais.
Pour argent comptant, pardon.
Mais tu vois, j'ai l'impression aussi que c'est ça qui plaît dans ce podcast, parce qu'au final, on parle tellement longtemps aussi, quand on est avec les invités, et on va au fond des choses, et je te remercie, tu fais partie des gens qui ont du coup participé, et qui ont eu l'honnêteté de dire les choses aussi, de dire ce qu'ils ressentent aussi tu vois, juste avant, j'en parlais avec Florent, c'est pareil, il parle de son passage à vide où pendant 2 ans, il a arrêté la photo pour se recentrer suite à des événements perso, etc. Et moi, je pense que c'est important que des gens aient accès à ces discours, à ces expériences-là, ces retours d'expérience qu'on ne trouvera pas ailleurs. Parce qu'effectivement, quand tu es à l'école, à un moment donné, si le prof il commence à fondre en larmes et t'expliquer que tel truc, ça n'a pas marché pour lui, le mec, il perd toute crédibilité devant ses élèves et du coup, il se crée un rôle, etc. Et ça ne marche pas. Et c'est pareil pour le contenu sur Internet. Et le fait d'avoir des conversations comme ça qui sont pas montées, qui sont brutes, qui sont honnêtes, ça plaît et moi ça me plaît aussi de le faire. Et merci d'avoir contribué.
Mais merci de m'avoir invité.
Je suis
flatté parce que je suis là parce que j'ai écouté tes podcasts et là je suis dans le podcast. Je réalise pas trop en fait. Je vais m'écouter. Je pense que je vais me faire chier, mais je vais m'écouter.
Excellent. Mais c'est marrant parce que t'es le deuxième membre de DR qui habite dans du côté de la Bretagne qui passe dans le podcast, puisqu'il y a aussi Pierre qui est passé là il y a pas très longtemps.
Pierre, ouais.
Et qui disait pareil que toi, qui est tombé sur mon contenu via le podcast et du coup qui était content de passer dedans. C'était marrant. Et je t'encourage à écouter son épisode d'ailleurs. Il est vachement inspirant. Et il y a plein de choses sur lesquelles vous revenez tous les deux qui sont intéressantes.
Ouais, on a des petits challenges. Enfin, moi, j'avais jamais pensé passer dans ton podcast, mais c'est cool. Et moi, je me fixe un peu des challenges un peu tarés. Cette année, je voulais avoir mes images aux 20h de France 2. Ça n'a pas été le cas. Mais je voulais que Laurent Delahousse il dise image Christophe Bessier, quoi. C'est complètement stupide parce qu'il y a qu'à moi que ça va faire plaisir. Mais je voulais ça et j'ai pas réussi, donc c'est pour 2024. Mais par contre, j'ai eu des images sur TF1, mais je voulais France 2. Mais ouais, c'est marrant comme il y a des opportunités qui se présentent. Enfin, moi cette année, mes images elles ont été donc de la vidéo, hein, du coup. France 3 régionale, France 3 nationale, TF1, envoyé spécial. Bon, envoyé spécial, ils ont un petit peu zappé. Enfin, c'est pas envoyé spécial, hein, c'est une boîte de production qui travaillait pour envoyé spécial. Ils ont un petit peu oublié de me créditer, quoi. Il y a un moment, moi j'étais au courant que j'avais mes images, mais au moins qu'ils mettent le crédit. Donc voilà, pour. Il faut se satisfaire aussi de ça. Pour moi, je ne pensais pas du tout que je ferais ça cette année. Et ça s'est fait parce que le fils de mon ami d'enfance est pilote d'hélicoptère qu'il est venu travailler dans cette boîte d'hélico. Il m'a parlé du chantier de Thévenec, et puis de fil en aiguille, ça s'est fait. J'aurais très bien pu dire, bon, je ne vais pas faire ça. Et en fait, je l'ai fait, et ça m'a déclenché plein de trucs, et je pense que c'est pas fini. Et je pense que c'est pas fini. Ouais.
On va suivre ça de près, et puis on encourage les gens à aller jeter un œil à ton bouquin, et puis
avec
à l'acheter.
Plaisir, il en reste. Il en reste. Et tu as fait des choses pas mal avec Nicolas Cross aussi. Il y a une phrase de lui que j'aime beaucoup, que j'ai entendue dans un podcast, je pense pas que c'était avec toi, c'était peut-être avec toi, qui dit « La chance n'arrive pas à celui qui reste dans son canapé. » À méditer, moi je crois beaucoup en ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut se bouger, quoi.
Ouais, carrément. Bah écoute, c'est une très belle conclusion. merci pour cet échange.
Merci à toi, avec plaisir.
Et à très vite.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas rater les prochains grands entretiens. Si vous êtes photographe professionnel et que vous souhaitez accéder à des ressources plus poussées pour vous aider à booster votre activité, j'ai préparé pour vous une boîte à outils numériques que vous pouvez télécharger en description de l'épisode. Je vous laisse découvrir tout ça tant qu'elle est encore disponible gratuitement, et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode du podcast.